RTL Soir.
On refait le monde. Marc-Olivier Fogiel.
19h19 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la correspondante à Paris de The Economist. Bonsoir Sophie Péder.
Bonsoir.
Avec l'ancien directeur de LCI, bonsoir Eric Revel.
Bonsoir Marc-Olivier Fogiel.
Avec le politologue, directeur du Centre d'études et d'analyse, bonsoir Roland Cayrol.
Bonsoir Marc-Olivier.
La membre du mouvement européen contre le racisme, l'une des membres, bonsoir Rokhaya Diallo.
Bonsoir.
Premier sujet, donc, vous l'avez entendu dans le journal avec Julien Célé il y a un instant, la réponse du berger à la bergère, Manuel Valls, qui réplique à Nicolas Sarkozy, le droit d'asile ne se découpe pas en tranches. Ce matin, dans le Figaro, le président du parti Les Républicains proposait la création d'un statut provisoire de réfugiés de guerre. Une fois le conflit terminé, donc, les réfugiés devraient ainsi quitter la France. Alors, la proposition de Nicolas Sarkozy vous choque-t-elle ? Vous la saluez sur les réseaux sociaux, Benoît.
Deux approches. Bonsoir. Deux approches bien distinctes. D'un côté, Cléruc qui applaudit Sarkozy. Oui, un réfugié, ça prend ce qu'on lui donne et ça rentre chez soi quand la guerre est finie. De l'autre, Alix qui parle d'enfumage grotesque ou comment être pour l'asile tout en étant contre, comme le tweet Jean-Christophe Cambadélis qui ricane après la fuite d'eau, c'est la fuite en avant. Tom rappelle que ce statut provisoire de réfugié de guerre voulu par Sarkozy, ça s'appelle la protection temporaire et ça existe depuis 50 ans. Gaspard ressort même l'article de loi, mais Pharaon leur rétorque que ça n'a jamais été appliqué. Les réfugiés libanais des années 80, les communistes venus avant 90, par exemple. Banks se demande, lui, ce qu'on appelle par fin de la guerre. Avec ça, on aurait pu renvoyer les républicains espagnols chez eux dès 1939, grince-t-il. Franco les aurait bien accueillis. David dit, ok, s'il y a un effet rétroactif pour les migrants hongrois, vous, Emmanuel Valls, racontez n'importe quoi, s'énerve Guillaume, Tim Sarkozy. Il existe déjà différents types d'asile, pas la peine de hurler. Mais Sarkozy parle aussi de centre de rétention et de sélection hors de l'espace Schengen, souligne Michel, sans demander l'avis de ces pays. Pauvre France, où sont tes valeurs, conclut-il.
Éric Revel, cette interview du président de la République, enfin ancien président de la République,
oui, dans le Figaro,
dans le Figaro, vous trouvez qu'il amène une pierre à l'édifice ou alors pas vraiment?
Non, moi je vais vous dire, je vais même pas avoir une analyse politique, je vais essayer d'avoir une analyse concrète. Bon, le droit d'asile tel qu'il est inscrit, il est universel. Si on commence à, je crois que le terme a été employé, à découper le droit d'asile, alors peut-être qu'un jour, dans les pays extrêmement, extrêmement pauvres, il faudra créer un droit d'asile pour les victimes de grandes catastrophes climatiques. Mais plus sérieusement, si on est concret, s'il y avait la création d'un statut de droit d'asile pour les gens qui souffrent de guerre. Alors, pardon, mais au bout de 10 ans, comme le préconise Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que vous faites des familles qui sont en France, qui ont des enfants? Comment ces gens repartent 10 ans plus tard dans leur pays pour trouver un travail? Et puis encore plus concret, que sera la géopolitique dans 10 ans? On l'a vu avec l'ex-Yougoslavie, on a assisté à la disparition de pays et à la création de nouveaux pays. Donc renvoyer quelqu'un qui a commencé à être en France au bout de 10 ans, mais vous le renvoyez dans quel pays si la géopolitique a bougé? Donc ça me semble pas une bonne idée.
Et comment vous expliquez, Roland Cayrol, politologue émérite, que Nicolas Sarkozy propose quelque chose d'infaisable? Enfin, si c'est votre avis d'ailleurs,
parce que
j'imagine.
Non, mais c'est évidemment infaisable et mettre en même temps dans des propositions cette histoire de nouveau statut de réfugié, en effet, qu'est-ce qu'on en fera après, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il suffisait d'ajouter ça comme préoccupation aux réfugiés, de savoir qu'ils étaient là pour, ils ne savaient pas combien de temps. Ajouter à ça les centres de rétention en Bulgarie ou en Afrique du Nord, dans ce sont des pays souverains. C'est quand même la preuve, à mon avis, que Nicolas Sarkozy n'a pas encore arrêté vraiment sa position. Qu'il est, comme il est de temps en temps, pris entre deux feux. Le feu d'une opinion de droite qui est encore majoritairement hostile à l'accueil de réfugiés.
On a vu 60% des républicains.
Moins qu'avant, mais enfin 60% de ses sympathisants sont encore hostiles. C'est 7 points de moins que la semaine dernière, mais c'est toujours là. Et puis il y a la pression du Front National qui lui crie pas de réfugiés du tout, pas un sur notre sol. Et puis en même temps, lui-même, Sarkozy, qui a dit l'autre fois que les mots d'humanité et d'humanisme devaient être mis en avant. Donc je crois qu'il n'a pas encore une vraie position. Il ne sait pas comment faire. Alors que Juppé, Fillon, Kosciusko-Morizet ont des positions très claires et beaucoup plus humanistes, pour le coup. Je crois, j'allais dire, que ce pauvre Nicolas Sarkozy, qui s'effrite en popularité à droite depuis le début de l'été, est en train de se chercher une position. Moi, je lui conseillerais volontiers d'attendre d'en avoir une avant de s'exprimer à nouveau.
Bah, il ne vous a pas écouté, il sera tout à l'heure aux 20h de TF1.
Oui, bah, après, peut-être qu'il pourrait faire rideau pour un moment et regarder un peu le monde. Vous savez, je crois qu'on est dans une situation extrêmement grave, qui ressemble à celle des années 30 après l'année 33. Je crois qu'on est à un tournant historique et qu'en effet, les hommes politiques et les peuples seront un jour jugés à l'aune morale de ce qu'ils auront fait en ce moment.
Sophie Péder, David Cameron, puisque Nicolas Sarkozy pointe les quotas aussi dans cette interview du Figaro, on peut pas dire qu'en Angleterre, vous les accueillez les bras ouverts.
C'est tout récent quand même. Il ne faut pas être idéaliste vis-à-vis du Royaume-Uni. Cameron, il a eu des propos très durs. Parlait des vagues de migrants. Il a surtout voulu les garder à Calais, les avoir chez lui. Et donc, c'est un changement d'approche de sa part. Mais je pense que cette histoire de réfugiés de guerre, c'est vraiment pas le sujet. C'est une crise historique. Les pays d'où viennent ces réfugiés sont parfois simplement ceux des dictatures, c'est pas des pays de guerre. Je pense à Érythrée, c'est un pays sous un dictateur, mais c'est pas en guerre. Donc c'est vraiment difficile de commencer à faire ce genre de distinction. Et c'est d'autant plus curieux de mon point de vue d'entendre ça dans la bouche de Nicolas Sarkozy, parce qu'à ma connaissance, son père lui-même était réfugié en France. Il est parti, je pense, de la Hongrie dans les années 50. Il est réfugié et il n'est jamais retourné dans son pays d'origine. Donc même sa propre personne, sa propre histoire personnelle est très liée à la générosité de la France. Et c'est ça, en ce moment, c'est ça qui compte. C'est pas une question de jeu politique vis-à-vis de sa positionnement. Je pense que c'est pas digne.
Vous, Rokhaya?
Effectivement, Nicolas Sarkozy a eu la chance à l'époque, en tout cas la famille Nicolas Sarkozy, son père, ont eu la chance de ne pas être confronté à des personnalités politiques aussi intransigeantes que lui, parce que son père ne serait pas allé bien loin au-delà du mur à l'époque. Alors, effectivement, les propositions de Nicolas Sarkozy, certaines sont complètement farfelues. Roland Carol a cité l'idée d'établir des camps de rétention sur des pays qui sont des pays absolument souverains et qui n'ont absolument pas vocation à se voir déléguer des fonctions et des prérogatives qui ne sont pas les leurs. C'est ce qui avait été fait, effectivement, à l'époque en Libye. Et je rappelle quand même qu'il y a une partie des réfugiés qui viennent en France parce qu'une partie de l'Afrique a été déstabilisée par une guerre qui a été engagée par Nicolas Sarkozy. Donc la responsabilité personnelle de Nicolas Sarkozy existe également. Il revient sur des principes absolument fondamentaux de nos démocraties, comme la question du droit du sol, qui est quand même un acquis révolutionnaire dont il envisage qu'il soit adapté. Donc moi, je crois que là, il est dans une stratégie très claire qui est sur la ligne de sa campagne de 2012, qui consiste à tout simplement à la fois rassurer la partie la plus dure des supporters des Républicains et puis les électeurs du Front National qu'il voit fuir plus à droite que son parti.
On en reparle dans un instant de ce positionnement politique, si vous voulez bien, de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pensez les uns et les autres finalement ça sera efficace pour 2017 hein, ou alors il est à côté de la plaque? On va revenir là-dessus dans un instant.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde
dans RTL Soir. On refait donc le monde à 19h30 sur RTL avec Sophie Péder, Éric Revel, Rokhaya Diallo et Roland Cayrol. On parlait du positionnement de Nicolas Sarkozy, donc là sur la crise migratoire. Mais en vue de 2017, est-ce que vous trouvez son positionnement judicieux, Roland Cayrol?
Écoutez, c'est le positionnement qui l'a fait perdre en 2012. Donc, je dirais plutôt non. Le problème est de savoir si les sentiments anti-Hollande et anti-bilan des socialistes sera tel que, au fond, peu importe, il peut gagner quand même. Moi, je crois que le problème se pose pour novembre 2016, c'est-à-dire pour les primaires de la droite et du centre. Plus ces primaires seront un succès. Mettons, s'ils ont, ce qu'ont eu les socialistes entre les deux tours des primaires en 2011, 4 millions de personnes qui se déplacent. Là, c'est pas seulement le noyau dur des Républicains qui soutient fortement Nicolas Sarkozy. Ça peut être le tout venant des électeurs centristes, modérés et aussi républicains. Et dans ces conditions-là, si la primaire est un succès, je ne vois pas comment sur ces thèmes on peut gagner une primaire. Je ne le vois pas, malgré l'énergie, le talent de campagne de Nicolas Sarkozy, qui est bien connu. Il me semble que d'autres, à commencer par Juppé, qui pour le moment mène la bataille, le sondagiaire, je pense que d'autres seront mieux placés que lui. Et que même si Sarkozy arrive en tête d'un premier tour de primaire, les autres peuvent s'allier au second tour pour le battre. Donc sur cette ligne-là, et si les primaires sont un succès populaire, je pense que c'est pas bon pour Sarko, qu'il a intérêt à réfléchir à un changement de ligne pour aller un peu plus vers les modérés. Si la primaire ne marche pas et ça veut dire que c'est surtout les militants de l'UMP qui viennent voter.
Là, c'est bingo.
Alors, ça peut gagner très bien.
C'est votre point de vue, Eric ?
Bah, moi, j'ai le sentiment, je reprends ce que disait Roland en commençant tout à l'heure sur la question du statut spécial des réfugiés de guerre, j'ai le sentiment que Nicolas Sarkozy, il n'a pas une position très arrêtée sur beaucoup de sujets. Et il me semble que on sent poindre dans le camp de Nicolas Sarkozy un petit début de vent de panique. Alors c'est pas seulement par la vague sondagière, mais on sent qu'il se passe quelque chose. Et j'ai le sentiment que Nicolas Sarkozy, dans ses déclarations, qu'elles concernent le statut des migrants ou autres, est en train de mélanger à la fois les primaires et le premier tour d'élection présidentielle. Ce qui donne peut-être une espèce de voile, ce qui met peut-être une espèce de voile de confusion sur ses déclarations, sur son positionnement. Regardez aujourd'hui quand même, sur la question qu'on traitait en commençant l'émission, celle des migrants, mais le président des Républicains, Nicolas Sarkozy, ne donne pas du tout l'impression de maîtriser son camp. Vous avez des candidats à la primaire qui ont des positions complètement opposées à la sienne, vous avez des maires républicains qui font des déclarations très fortes et à l'encontre de la notion même des Républicains. Moi, j'ai le sentiment qu'il est en train de perdre un peu la main en confondant primaire et premier tour.
Et vous, Sophie Péder ?
Je vois évidemment la tension entre sa positionnement pour le primaire, où il doit séduire le centre-droite, et pour la présidentielle 2017, où il doit séduire à droite. Mais je suis très intriguée par ces questions primaires et l'imprévisibilité des sondages. On voit ça actuellement au Royaume-Uni. Aujourd'hui, il y a eu un vote parmi les militants et les supporters pour le nouveau chef du parti Labour. Oui. Et en toute probabilité, c'est le outsider complet qui va gagner ça, et ça sera annoncé samedi matin. Et ça, personne n'a vu venir ça. Donc c'est vraiment très difficile. Il n'y a pas de précédent au sein de la droite, un parti, un primaire ouvert, et les sondages sont parfois faux. Et le résultat du sondage en ce moment, c'est, ça varie beaucoup, n'est-ce pas? Donc c'est difficile de prévoir le résultat, c'est ça.
Rocaille, il y a ce positionnement à la Buisson, d'une certaine manière, sans Buisson, de Nicolas Sarkozy, vous étonne ?
Non, ça ne m'étonne pas, mais je crois que même au-delà du fond, ce que ça fait apparaître chez Nicolas Sarkozy peut vraiment lui nuire, parce que c'est quand même quelqu'un qui s'est construit, qui a construit son ascension sur une image d'autorité, de fermeté, avec une ligne relativement claire, même si, quoi qu'on pense de cette ligne. Et là, effectivement, de le voir finalement changer d'avis, dire d'un côté que le droit du sol est inaliénable pour finalement revenir dessus, changer d'avis sur des sujets aussi importants, ça donne quand même le sentiment d'une certaine faiblesse, et qui est d'autant plus importante que lorsqu'on la compare en fait à d'autres gens qui sont en plus jeunes, moins aguerrés à la politique, je pense à des Nathalie Kosciusko-Morizet, à des Laurent Wauquiez, qui semblent avoir des lignes plus claires. Il apparaît comme quelqu'un d'assez faible et finalement assez volatile, et je crois que le principal attrait qu'avaient les gens pour lui, il était lié à cette posture assez solide. Donc je crois que ça lui nuit aussi dans ce sens-là.
Allez, on suivra évidemment tout ça. Dans un instant, les fonctionnaires mis à l'index par la Cour des comptes. On en débat dans un instant.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde dans RTL Soir.
19h38 sur RTL, on refait le monde avec Sophie Péder, Éric Revel, Rocaille Diallo et Roland Quayrol. Les sages de la rue Cambon ont encore frappé leur cible, les fonctionnaires qui coûtent trop cher à l'État, et la revalorisation annoncée par le gouvernement ne va pas arranger les choses, plus 4,5 milliards d'euros par an d'ici 2020. Alors pour s'y retrouver, il faudrait, selon la Cour des comptes, limiter les primes, ne pas remplacer un départ à la retraite sur 4, faire travailler plus longtemps et efficacement les fonctionnaires. Vaste programme. Alors les fonctionnaires doivent-ils travailler plus sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Ah bah vous vous doutez qu'ils en prennent pour leur grade, comme d'habitude. Pour bosser plus, faudrait déjà qu'ils viennent travailler, ricane Mimi. Oui, depuis le temps qu'on crie à l'injustice, explose Ronga. Moi, j'étais fonctionnaire au PTT. L'ennui me fatiguait, mais pas le travail. À vous, Fiori, je t'invite à venir passer une semaine à mes côtés. Tu risques de revenir sur tes paroles, s'énerve Louma. Ouh là là, mais c'est la base de l'électorat socialo. Faut pas y toucher. Les pauvres, ils bossent déjà beaucoup chez eux, persifle Peter. Moi, je remarque surtout en ce moment que les services de l'État embauchent à 39 heures en CDD renouvelable pour un salaire de fonctionnaire en plus, soupire Larry. Christian concède que oui, ils peuvent travailler plus à condition d'augmenter les rémunérations. Moi, je suis partant si on me paye plus. Je travaille pas pour la gloire. Déjà que c'est juste mes fins de mois, confirme Mika. Bien sûr, on ne peut pas généraliser, concède Frantran, mais commençons par regarder les 5% qui sont vraiment sous la ligne de flottaison. C'est non seulement un devoir de l'État, mais de chaque citoyen de faire des efforts. Clark, pour finir, remarque, j'en vois qu'on passait tout l'après-midi à critiquer ces fainéants de fonctionnaires. Vous avez le temps de faire ça au boulot, vous devriez devriez bosser plus.
Sophie Péder, les fonctionnaires français, vous pensez que franchement, il y a du gras?
Je suis plutôt du côté, ça ne va pas vous surprendre, du côté du cours de compte. Je pense que là, vraiment, ce qui demande, ou ce qui préconise, ce n'est même pas très extravagant. Si vous prenez quelques exemples, ils ont proposé d'aligner la durée effective de travail des fonctionnaires sur la durée légale. Et si j'ai bien fait mon calcul, ça veut dire par semaine encore 15 minutes. Alors, et comme ça, ils vont économiser, ou on pourrait économiser 700 millions d'euros. C'est juste un petit exemple. Ça, c'est pas des changements majeurs qu'ils préconisent. C'est juste des petits ajustements qui pourraient vraiment aider à.
Mais vous les avez entendus dans le journal de 19h, les fonctionnaires vont debout.
Bien sûr, mais là, il faut mettre ça en perspective. La France a déjà bien plus de fonctionnaires que tous les pays européens. Par tête d'habitant, la France a presque deux fois plus de fonctionnaires, à tous les niveaux confondus, que l'Allemagne. Donc déjà, la France dépense beaucoup et je pense qu'elle ne peut pas continuer comme ça.
Non, mais le fait est que les fonctionnaires, en fait, les gens qui sont dans la fonction publique, si on compare leurs revenus à ceux qui ont des fonctions équivalentes dans le privé, on voit bien qu'ils sont moins bien payés. Donc leur demander, si on doit aligner des choses avec le privé, on doit tout aligner. Ce sont quand même des gens qui travaillent.
Pardon, ce que vous dites n'est pas tout à fait juste. En réalité, non, alors, en moyenne, vous avez raison, ils sont mieux payés dans le privé que dans le public, mais en réalité, il y a plus de smicards dans le privé que dans la fonction
publique. Absolument, mais ce que je veux dire, c'est que quand on veut faire carrière dans la vie, si on choisit la fonction publique, on sait qu'on va moins bien gagner sa vie que si on choisit le secteur privé.
Et on aura beaucoup plus de sécurité dans la vie.
L'emploi, une sécurité de l'emploi.
Sécurité de l'emploi.
Dans le privé.
Oui, non, mais la sécurité de l'emploi, ça ne fait pas manger à la fin du mois. Je veux dire, c'est concrètement... Si on fait le bilan sur plusieurs années. Ce que je veux ajouter également, c'est qu'il y a effectivement... La Cour des comptes préconise d'augmenter la durée du travail parce que certains agents ont des régimes dérogatoires.
1594 heures aujourd'hui à 1607.
C'est ça, il y a des régimes dérogatoires qui sont liés à certaines fonctions. Je pense par exemple aux gardiens de prison parce qu'ils ont des travaux soit qui sont pénibles, soit parce qu'ils travaillent de nuit. C'est pour ça qu'ils ont des heures moins nombreuses. Et encore une fois, les professeurs, on leur tape toujours dessus, mais il y a du temps de travail effectif qui est du temps de présence sur le terrain scolaire et il y a du temps qui est le temps où ils enseignent. Et effectivement, quand on est tout debout pendant une heure devant une classe, on n'a pas le temps par exemple de tweeter ou de faire des choses comme ça. C'est quand même du temps où on est concentré, parfois avec des classes qui sont pas facile.
Oui, enfin, Rogaïa, si je peux me permettre...
Le moins veut tout dire.
Non, non, si je peux me permettre de vous couper la parole...
C'est pas la peine d'aller au-delà, on a compris.
Le principal souci des Français aujourd'hui, c'est le chômage.
Alors, on ne peut pas faire planer le chômage comme menace sur la fonction publique.
Terminer, et pour être extrêmement précis, d'abord, le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, est un socialiste bontain, donc c'est intéressant... Je parle devant l'auteur Sophie du déni français de rappeler ça, c'est que le premier président de la Cour des comptes est socialiste.
Enfin, ça ne veut plus dire grand-chose de nos jours.
Attends, non, bah, peut-être pour vous.
Non, pour
ce que
Manuel Valls,
c'est que le fait que Didier Migaud pointe ce problème qui est récurrent, je suis d'accord avec vous, et on fait l'amalgame entre la fonction publique territoriale, hospitalière, et tout ça est un peu caricatural. Mais tout de même, aujourd'hui, le premier sujet des Français, c'est le chômage. Les fonctionnaires ont cette énorme avantage par rapport aux salariés du secteur privé, c'est qu'ils ne le seront jamais au chômage. Donc, et c'est tant mieux pour eux. Vous pouvez m'expliquer que, en moyenne, les salaires les plus élevés sont dans le privé, mais la garantie de l'emploi et le nombre de smicards, il est moins élevé dans la fonction publique que dans le secteur privé. Roland Cayrol, c'est indéniable.
Oui, oui, cela dit, le salaire moyen des fonctionnaires est plus élevé que celui du secteur privé. Moi, je voudrais rendre hommage à la Cour des comptes, parce que c'est qui la Cour des comptes? C'est les fonctionnaires. Et voilà que ces messieurs et un peu dames disent qu'il faudrait baisser les prérogatives des fonctionnaires. C'est suffisamment rare pour être salué. Ensuite, je crois que c'est une affaire extrêmement compliqué, parce que voilà, c'est très important la fonction publique en France, et on ne bouge pas ça d'un coup de baguette magique en prenant des mesures qui s'appliqueraient à tous. Par exemple, quand on dit les fonctionnaires et la garantie de l'emploi, il y a maintenant déjà un quart des fonctionnaires qui ne bénéficient pas du statut de la fonction publique, un quart, c'était 24% l'année dernière, qui sont des salariés de droit privé, dans la fonction
un
publique.
Un quart de votre argument ne tient plus, Eric Revel.
Oui, mais enfin...
Sur les trois quarts qui restent, il y a des choses assez faciles à faire, mais douloureuses socialement. Par exemple, la Cour nous dit, on fait, pour le supplément familial, qui est touché par tous les salariés, on enlève le rajout qui est fait pour la fonction publique. Et on leur donne le même supplément familial que dans le secteur privé. Et on gagne 750 millions d'euros.
Ça, Sophie Pébert, par exemple, alors, vous trouvez ça normal ?
Oui, non, c'est pas ça. Je dis pas que toutes les préconisations sont bien. Je disais juste tout à l'heure que ce qui est important, c'est que parfois, c'est vraiment des petits ajustements. C'est pas des énormes changements de pratiques. Ils demandent pas, par exemple, de mettre tous les fonctionnaires sur les contrats de travail de droit privé. Personne dit ça. Alors qu'en Suède, tous les fonctionnaires sont sous ces contrats-là.
Alors moi, ce que je trouve bien dans le rapport de la Cour des comptes, c'est qu'il appelle surtout à des évaluations. Il demande qu'on regarde cas par cas ce que sont les avantages, les petits privilèges, les petites habitudes qu'on a prises, et de voir si c'est ou pas légitime par rapport au service rendu, par rapport au temps de travail, etc. Et la conviction de la Cour, et franchement, c'est la mienne aussi, c'est que si on allait dans ce sens, il y a en effet des gisements d'économie considérable, parce que n'oublions pas, ces fonctionnaires, tous, c'est 13% de la richesse nationale, et c'est un quart du budget de la France. Si on veut faire des économies, ça passera à un moment forcément par ce côté-là.
Mais à quel moment ?
À un moment, et pas seulement dans l'État, beaucoup dans la fonction publique territoriale, parce que alors que les salaires, la masse salariale a baissé depuis 2013 dans la fonction publique nationale, elle a augmenté de 2 points dans la fonction publique territoriale.
Il y a un pays à développement économique comparable au nôtre, qui a fait une réforme incroyable. Et tous les hommes politiques français de gauche et de droite vont le voir, c'est le Canada. Le Canada était en déficit budgétaire, il est en excédent budgétaire. Le magicien s'appelait Paul Martin. Et une partie de la fonction publique a été privatisée dans ce pays. Et depuis des années et des années, les politiques de gauche et de droite français vont dans ce pays pour voir comment faire.
Allez, à suivre, la COP21, ça commence maintenant, on en débat dans un instant.
Olivier Faugiel, on refait le monde dans RTL Soir.
19h49, on refait le monde ce soir avec Éric Revel, Roland Kayrol, Rokhaya Diallo et Sophie Péder. Ce qui est en jeu, ce n'est pas le mode de vie. Ce qui est en jeu, c'est la vie. François Hollande a donc lancé la mobilisation officielle pour la COP21 qui se tiendra, vous le savez, dans 81 jours maintenant. Objectif, limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et trouver 100 milliards de dollars par an pour passer à une économie sans carbone. Alors la COP21, vous y croyez ? Ou pas, sur les réseaux sociaux, Benoît.
Il y a les optimistes, comme Jean, qui croisent les doigts, pour un monde respirable et meilleur. J'espère la bonne réussite de l'événement, pour l'honneur de la France aussi et de l'humanité. On n'a plus le choix, dit-il. Plus réservé, Alceste prédit, ça va encore accoucher d'une souris, espérons au moins qu'elle soit verte. Ça a l'air mal barré, vu la gueule des sponsors, Taclan Clair, GDF, Renault, BNP. Ah, les gros lobbyistes du pétrole qui vont rien lâcher pour la planète, s'amuse aussi l'esprit rock. Hollande à la tête de la COP21, c'est un peu comme si un bouffeur de viande organisait la réunion mondiale des végétariens, grince aussi une aide. Plus pessimiste encore, Emma, pour finir, regrette. Nous sommes en 2015. Je crois que c'est un peu tard, messieurs les démissionnaires.
Roland, vous y croyez à cette COP21, vous ?
Écoutez, j'y crois parce que je pense que beaucoup de dirigeants de cette planète se sont habitués à l'idée que, comme le dit Hollande, c'est de la vie qu'il s'agit, c'est de la respirabilité, si j'ose dire, de cette planète, c'est de l'avenir des générations futures. Il y aura des décisions prises, il y aura des engagements pris. Le problème, et c'est pour ça que je ne sais pas si j'y crois comme un succès possible, le problème, c'est ce qu'a dit François Hollande lui-même dans sa conférence de presse, c'est le financement des mesures qui vont être annoncées. Pas de financement, c'est des vœux pieux.
Ouais, et
une conférence qui n'accouche encore que de vœux pieux là-dessus, ça ne va pas. Or, à l'heure où nous parlons, les financements ne sont pas réunis. Et certains grands pays en développement de cette planète, je pense à l'Inde notamment, n'ont pas envie qu'on arrive à un accord si c'est sur des bases aussi fausses. Donc, oui, j'y crois sur le fond, mais dès l'instant qu'il s'agit des fonds, et plus du fond, j'ai un peu plus de mal à y croire. Il y a beaucoup à faire, il y a peu de temps, avec en plus cette absurdité qu'on a une conférence qui va se terminer à Paris entre les deux tours d'une élection en France, ce qui ne va pas aider beaucoup à la visibilité d'un certain nombre de choses. Ça, c'est une bêtise gouvernementale rare. Voilà, je crois qu'il faut tout faire pour arriver à y croire, mais que ça ne dépend pas vraiment de nous. Ça dépend des États qui ont les moyens financiers de tenir ces promesses.
On en parle beaucoup de la COP21 chez vous, Sophie Pellet ?
Pas encore, non, pas du tout. Mais je pense que ça, vous avez raison, ça dépend beaucoup des autres. Mais ce qui m'intéresse et me fascine, c'est l'investissement de la part des diplomates français dans cette affaire. C'est vraiment, ils font un travail remarquable en ce moment. Ils travaillent tout le temps, ils voyagent partout dans le monde. Parce que,
pays par pays,
absolument. Et c'est vrai que en dehors de la France, on n'en parle pas du tout. pour l'instant. Donc ça reste au niveau des diplomates, des sherpas, etc.
Qui disent, ça sert à rien de s'énerver beaucoup quand on va revenir au pouvoir. De toute façon, on déchira le papier. Hein. Donc on en parle là-bas comme ça.
Ça c'est une question. Mais donc c'est vraiment important, non seulement pour la planète évidemment, mais également pour la réputation de la France et du pays et de François Hollande quelque part, que c'est une réussite. C'est un grand pari.
Et vous misez dessus ?
Est-ce que ça va réussir ?
Ah ouais ? Est-ce que vous misez dessus ?
Bon. À ce stade, c'est... Je sais pas. Je crains qu'à ce stade, ça paraît très peu probable. Mais on sait jamais en diplomatie que ça peut tourner à la dernière minute.
Bon, moi, évidemment, j'aimerais y croire. Pas parce que ça s'est organisé en France, mais parce que le sujet est très grave. Parce que la montée des eaux telle qu'elle est décrite par les spécialistes est effrayante. Parce que la multiplication des catastrophes climatiques est effrayante. Mais l'objectif de border les 2% d'augmentation de la température, on sait déjà que ce ne sera pas tenable, puisqu'il faudrait que d'ici 2050, il n'y ait plus d'utilisation de pétrole, que toutes les voitures roulent à l'électrique, qu'il y ait l'utilisation de panneaux solaires, et que on est déjà sur la base de 3% d'augmentation de la température. Donc en fait, on veut y croire, parce que le sujet est tellement grave et tellement essentiel pour notre bien-être, puis aussi pour le développement économique, on veut y croire. Mais voilà, on peut se poser la question sans reprendre la formule de Bacon, le peintre, je suis un optimiste désespéré, mais est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? Voilà.
Effectivement, de toutes les façons, si on regarde juste la question de la manière dont on puise dans l'énergie terrestre, on a déjà dépassé ce qu'on est censé dépenser en termes d'énergie depuis plusieurs semaines, donc il y a vraiment la question de l'enjeu de l'urgence. Après, moi, ce que je crains, effectivement, c'est de voir que, bien sûr, François Hollande envoie des signaux positifs en décidant de ne plus soutenir, par exemple, les entreprises qui émettent des gaz à effet de serre. C'est une décision que je trouve importante et assez salutaire. Simplement, de constater que nous, en France, on est investis dans l'organisation de cet événement parce qu'il y a des enjeux de communication, des gens de réputation, mais que finalement nos partenaires qui vont y participer portent peut-être moins d'intérêt à cet événement. Donc je pense qu'aujourd'hui il est peut-être un peu tôt pour se prononcer sur la mesure que prennent nos partenaires, mais j'ai bien peur qu'en rejoignant la question du financement, on soit finalement devant des annonces qui ne soient pas suivies vraiment d'une volonté politique forte et d'un accompagnement financier.
Je vais vous dire quand même ce que disait Virginie Garin à midi, donc spécialiste dans l'environnement, pour réduire les 2 degrés. Il faudrait qu'on émette plus du tout de carbone en 2050, ça veut dire rouler à l'électrique, au biocarburant, éliminer le pétrole, que les usines fonctionnent au solaire, à l'éolien ou moins au gaz, que le carbone qu'elles émettent soit capturé et recyclé. Ça va demander beaucoup d'innovations technologiques, mais c'est possible, oui, disent les industriels. Et puis les pays pauvres qui vont se développer vont devoir arrêter de construire donc des centrales à charbon et se mettre aux énergies propres, mais il faut les aider.
Donc, c'est possible, le finance, c'est pour ça.
Il n'est pas sûr que ça soit cher. Oui. C'est ça qui est intéressant, c'est que si vous prenez le projet de développement de transition énergétique de la France, ça ne coûtera pas plus cher de se passer du nucléaire et de passer uniquement par les énergies renouvelables.
Mais il faut engager la transition dès aujourd'hui, c'est ça aussi. Si on commence à dire qu'il faut le faire dans quelques années, ça peut faire
un calendrier. Il faut créer des filières, notamment pour les panneaux solaires, puisqu'on sait qu'on a arrêté de défiscaliser les panneaux solaires en France parce qu'ils étaient construits en Chine. C'est aussi, il y a l'aspect protection de l'environnement. Il y a aussi, pardonnez-moi de parler de croissance et de business, mais il y a aussi cet intérêt-là. On veut que ça se nourrisse en termes d'emploi.
Allez, merci à tous les quatre. Merci à Roland Kayrol, à Rokhaya Diallo, à Sophie Péder et à Rick Revel.